Vous êtes sur RTL.
9h du matin.
RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce 2 novembre 2019, les tests ADN ont parlé, les ossements retrouvés en début de semaine dans les Ardennes sont bien ceux d'Anaïs Guillaume.
La jeune femme de 21 ans s'était volatilisée en 2013. Un homme a d'ailleurs été condamné en avril dernier. Il s'agit de son ancien amant, Philippe Gillet, un agriculteur qui a toujours clamé son innocence. Il a fait appel. En fait, c'est une lettre anonyme qui a permis de retrouver les restes de la victime, ce qui pose beaucoup de questions, Adeline Courson, mais qui apaise aussi, entre guillemets, le chagrin des parents.
Oui, c'est d'abord le soulagement pour la famille de la victime, Fabrice, le père d'Anaïs Guillaume, au micro RTL d'Alice Moreno.
C'est un mélange de soulagement, parce qu'on a retrouvé notre fille et on allait pouvoir faire notre deuil tranquillement, et puis en même temps un mélange de tristesse et de colère.
Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, une lettre anonyme sème le trouble, celle envoyée aux avocats de Philippe Gillet en septembre. Les coupables de la disparition d'Anaïs sont toujours en liberté, écrit Le Corbeau. L'auteur qui avait indiqué précisément où se trouvait le corps d'Anaïs, sous un tas de fumier fouillé par la fille de l'agriculteur lundi, avant qu'elle n'alerte les gendarmes. Pour les parents d'Anaïs, elle est complice de son père, a peut-être voulu déplacer le corps. Elle doit être entendue pour modification de scène de crime. Autre question sous par le courrier. Anaïs est-elle décédée le 16 avril 2013, le jour de sa disparition? Selon l'auteur de la lettre, Anaïs était en vie et retenue en Belgique jusqu'en 2016. Des analyses doivent être faites pour confirmer la date du décès de la jeune femme.
Précision d'Adeline Courson pour RTL. Merci Adeline. À Marseille, l'auteur de la fusillade qui a fait 6 blessés avant-hier soir dans les quartiers nord reste introuvable. Il a ouvert le feu dans un bar sans que l'on ne sache encore s'il s'agit ou pas d'un règlement de compte.
À Béziers, 300 élèves ne pourront pas retrouver leur classe pour la rentrée lundi.
Une école primaire de la ville a été totalement détruite par un incendie jeudi soir. 2 salles du collège voisin ont également été ravagées par les flammes et la piste criminelle ne fait aucun doute. Il va bien sûr falloir retrouver les auteurs de ce crime. Mais pour le sénateur LR de l'Hérault, Jean-Pierre Grand, un responsable est d'ores et déjà trouvé. Il s'agit ni plus ni moins du maire de la ville. Écoutez Jean-Pierre Grand, il était l'invité de Philippe Robuchon hier soir sur RTL.
Béziers, c'est une ville où tout avait été promis par le maire d'extrême droite, M. Ménard. Et en fait, aucun des grands problèmes de sécurité, de chômage et surtout du vivre ensemble n'a été réglé. La politique de communication souvent se transforme en provocation. Et c'est reçu comme ça dans certains quartiers. Les élus locaux, ils ont un rôle d'amortisseur social. Robert Ménard, il soigne son électorat, mais il soigne pas sa ville.
Selon vous, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé la nuit dernière?
Ah oui, il a une part de responsabilité, oui, effectivement. Mais il est responsable d'un climat. Dans les quartiers, il faut être toujours très, très vigilant. Le maire, c'est pas un shérif.
En tout, une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés avant-hier, sachant que durant cette soirée, d'autres feux ont été allumés, voitures, poubelles, mobilier urbain. Il y a eu beaucoup de dégâts. Patrick Balkany va-t-il pouvoir bénéficier d'une remise en liberté? Sa première demande a été acceptée et mardi prochain, la Cour d'appel de Paris examinera celle qui a été déposée en lien avec sa deuxième condamnation.
Et puis souvenez-vous, il y a 5 semaines, la faillite de Thomas Cook avait fait grand bruit.
Ah bah oui, du jour au lendemain, 140 000 touristes étaient bloqués un peu partout dans le monde, cherchaient une solution pour être rapatriés. Et ce matin, on apprend que le groupe chinois Fosun, déjà propriétaire du Club Med, vient d'acquérir le voyagiste britannique. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Qu'est-ce que cela veut dire exactement Anaïs? C'est la résurrection de Thomas Cook?
Non, disons que c'est plutôt le démantèlement morceau par morceau du voyagiste. Thomas Cook a fait faillite et en quelque sorte maintenant chacun se serre sur la dépouille. Le liquidateur public par exemple a déjà cédé tout le réseau d'agences au Royaume-Uni, toutes les petites boutiques Thomas Cook, ce qui devrait permettre de sauver 2500 emplois sur les 9000 de l'entreprise en faillite. Là, avec l'annonce de Fosun, c'est un autre morceau qui est racheté par les Chinois. Fosun a récupéré le nom Thomas Cook, la marque, ainsi que les comptes des réseaux sociaux. Coût de l'opération 13 millions d'euros, ce qui permet de dire qu'on va sûrement encore entendre parler dans les prochaines années de Thomas Cook. Mais ça n'aura plus rien à voir avec l'entreprise d'origine, ce sera le nom accolée à une autre société. Il faut dire que le chinois Fosun n'en est pas à son premier coup d'essai dans les rachats d'entreprises touristiques. Il avait déjà l'intention, avant la faillite de Thomas Cook, d'entrer au capital de l'entreprise en difficulté, mais ça donc c'était avant la faillite soudaine. Et Fosun est également déjà aussi le propriétaire du Club Med, un autre voyagiste dont les difficultés financières se sont succédées ces dernières années.
Précision d'Anaïs Bouissou. La COP25 aura bien lieu, malgré son annulation au Chili à cause de la contestation sociale actuelle. La conférence sur le climat va être organisée en Espagne début décembre. Elle aura lieu à Madrid.
La politique, Agnès, est un ancien candidat de la France Insoumise qui n'épargne pas Jean-Luc Mélenchon.
Thomas Guénolet était sur la liste du parti aux dernières européennes. Après avoir déjà publié un communiqué au Vitriol fin avril, il s'était retrouvé accusé de harcèlement sexuel. Cette fois, il riposte avec un livre qui sort mercredi prochain, « La chute de la maison Mélenchon ». C'est le titre. Dans cet ouvrage, Thomas Guénolet s'érige en véritable procureur, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, c'est un véritable réquisitoire qu'écrit Thomas Guénolet. Pour lui, Jean-Luc Mélenchon fonctionne de manière dictatoriale. Ces accusations ne sont pas nouvelles, mais la démonstration est étayée et documentée. Le patron des Insoumis a poussé le verrouillage assez loin, écrit Guénolet. La France Insoumise est une association qui n'admet aucun adhérent en dehors d'un bureau doté des pleins pouvoirs. Du coup, la démocratie interne est un simulacre, selon lui, avec des militants qui n'ont en réalité pas leur mot à dire. Le comité électoral soi-disant tiré au sort comporte trop de proches de députés pour que ce soit innocent. Quant à la web télé Le Média, créée par la communicante Sophia Chikirou, loin d'être indépendante de LFI comme elle le prétend, c'était, je cite, une base arrière pour l'élection de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Accusé par LFI de harcèlement sexuel, ce qu'il nie farouchement, Guénolet est convaincu que son sort était scellé d'avance. LFI voulait l'exclure. Il décrit une mise en cause quasi stalinienne. La France Insoumise ne fait pas de commentaire à ce stade.
Les précisions de Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Et puisque vous serez nombreux sur les routes pour la suite et la fin de ce week-end de la Toussaint, vous devez savoir ce matin que les super radars vont se multiplier.
Ah oui, le gouvernement souhaite déployer 1200 radars tourelles, c'est leur nom. Plus difficile à dégrader, ils permettent également d'enregistrer davantage d'infractions, Florian Martin.
Oui, il y en a déjà entre 150 et 200 au service actuellement sur les routes françaises. Le radar tourelle, c'est un bijou de technologie. Il est capable de contrôler 32 véhicules simultanément sur 8 voies différentes. Autre avantage, il ne détecte pas seulement les infractions liées à la vitesse. Parmi ses super pouvoirs, il peut repérer le dépassement par la droite, le non-respect des distances de sécurité, le téléphone au volant, le franchissement de voies interdites ou encore le non-port de la ceinture de sécurité. Ce super radar a également un dernier argument. Il est perché à 4 mètres de haut, histoire d'échapper un peu plus aux dégradations.
Florian Martin pour RTL.
Et le chauffeur dont on va vous parler dans un instant, c'est pas vraiment un radar qui lui a posé un problème alors qu'il était chargé d'escorter un détenu. On vous explique tout juste après ceci, restez avec nous.
RTL Matin.
RTL Matin, 9h10, suite du journal. Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Et donc Agnès, la polyvalence, l'intérim, parfois ça a ses limites.
Et ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui dira le contraire. Un chauffeur de 72 ans a été chargé d'escorter un détenu. Sauf que ce n'est pas son métier, que c'était une première pour lui et qu'il a mis le convoi en danger, Jean-Alphonse Richard. Récit d'une folle épopée.
Oui, un homme de 72 ans, pas du tout un agent de l'administration pénitentiaire, mais un intérimaire. Ce genre de mission d'escorte étant confié ici à une société privée. Un chauffeur qui n'a en fait aucune expérience de la conduite, encore moins celle d'accompagner un convoi sécurisé roulant à toute allure. Du coup, ça part très mal pour notre escort boy grisonnant et stressé. Il n'arrive pas à passer la première, actionne le frein à main, s'en mêle les pinceaux dans les pédales. Dès que la sirène est actionnée, c'est encore pire, il perd tous ses moyens, se met à zigzaguer sur l'autoroute jusqu'à frôler quelques camions, embardé tellement périlleuse que le chef d'escorte va stopper le convoi et prendre lui-même le volant. Notre pilote d'un jour s'est donc retrouvé sur la banquette arrière, pas mécontent de son sort puisqu'il a dit que comme ça, il pourrait apprendre à mieux conduire. Pas sûr toutefois que la pénitentiaire fasse encore appel à ses services.
Effectivement, c'est pas sûr. Histoire signée Jean-Alphonse Richard pour RTL.
Dans moins d'une heure, c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde de rugby.
rugby.
Angleterre, Afrique du Sud, il n'y aura pas de cadeau sur le terrain entre les joueurs. Un beau spectacle en perspective. Et tant pis pour le décalage horaire avec le Japon. Outre-Manche, les pubs sont déjà pris d'assaut par les supporters. Marie Billon, ça va permettre de parler d'autre chose que de politique. Quoique...
Ceci n'est pas un slogan de campagne pro-Brexit, mais ça y ressemble.
Je suis curieux de voir si l'Angleterre réalise son potentiel. Ça va faire 4 ans que les Anglais attendent ça. Donc on va voir ce qu'ils ont dans le ventre.
C'est bien un supporter de l'équipe de rugby pressé de voir la finale et soulagé pour une fois d'être encerclé par des drapeaux qui ne sont pas ceux des pro ou anti-Brexit. Au mur, au plafond, sur les tables, le bar est recouvert des couleurs de multiples équipes.
On aime le sport ici, toute excuse est bonne pour faire la fête, même tôt le matin. Le Brexit est là de toute façon, alors raison de plus pour s'amuser.
Oui, ça met tout le monde d'accord et on a besoin d'avoir quelque chose en commun. Une victoire aura encore plus d'importance avec ça. Et puis après, on retournera à la politique.
Se changer les idées, eh bien certains sont contre. Les gens ne devraient penser qu'au Brexit, pas regarder le sport, dit cet Italien, autant frustré par la politique que par la performance de son équipe.
Le reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Et nous, on a déjà un petit peu gagné cette finale, non ? Avec notre arbitre, ouais. Jérôme Garcès, un Français quand même. Génial, trop la classe. En foot, gros coup dur pour le PSG hier soir. Là, c'est pas la classe. En 12e journée de Ligue 1, les Parisiens ont été battus, et pas par n'importe qui, par Dijon, lanterne rouge au classement. Score final, 2-1. Parmi les rencontres à suivre aujourd'hui, Marseille-Lille, Amiens-Brest, Angers-Strasbourg ou encore Toulouse-Lyon. Des rencontres à suivre évidemment à partir de 19h30 sur notre antenne dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis à noter en Ligue 2 lors de la 13e journée, victoire de Caen, de Troyes, de Guingamp, de l'AC Ajaccio et de Châteauroux. Et puis en tennis, plus aucun Français. Au Masters 1000 de Paris-Bercy, c'est fini. Gaël Monfils s'est fait sortir par le Canadien Denis Shapovalov, 6-2, 6-2. Et Joe Wilfried Tsonga, lui, n'a rien pu faire face à Nadal. 7-6, 6-1 et puis s'en va. Dans le dernier carré, justement, Nadal rencontrera Shapovalov et l'autre demi-finale opposera Djokovic au Bulgare Dimitrov.
C'est bien noté. Toute l'actualité, c'est rtl.fr. Merci beaucoup Agnès Bonfillon. Vous revenez demain avec un immense plaisir et surtout pour...